CPU a eu le plaisir d'enregistrer plusieurs fois à la place du code, les locaux de la compagnie du code, qui sont rue Matabiau. D'ailleurs, je précise qu'en vitrine actuellement, il y a une exposition de vieux ordinateurs avec nos amis de Silicium, suite à l'enregistrement de nos émissions qu'on a fait sur le basique, qu'on a enregistré en juillet dernier. Et la semaine précédant la diffusion de cette émission, nos amis de la compagnie du code nous annoncent une catastrophe. Ils sont expulsés de leurs locaux rue Matabiau pour des impayés qui sont en partie déjà remboursés. À croire que depuis le début de l'épidémie de Covid, il y a une malédiction pour les tiers-lieux scientifiques sur Toulouse, puisque le Tétalab, comme tout Mixar Miris, est sous la menace de se faire expulser du 12 rue Ferdinand Lassalle, et que bientôt les ateliers IPN et TA vont devoir plier les gueules de la rue des Jumeaux. Pour en revenir à la place du code, l'histoire est ubuesque pour notre partenaire et nous avions voulu en savoir plus. C'est pour ça que nous recevons aujourd'hui François de Rochebrune.
CPU carré petit utile.
François, pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions qu'on a fait avec vous et d'autres d'ailleurs qu'on a enregistrées chez vous, rappelle-nous rapidement ce qu'est la compagnie du code.
Alors la compagnie du code, c'est une coopérative, une sorte de coopérative, une variété de coopérative. C'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Elle a été créée en 2015 suite à la réalisation d'un certain nombre d'ateliers qui étaient animés à la mêlée, à la cantine de la mêlée. Et en 2015, 5 ou 6 sociétaires ont décidé de passer à la vitesse supérieure avec la création d'une structure. Alors, pas vraiment une start-up, plutôt une société qui fasse la part belle aux usagers. Et donc l'idée, c'était pas de gagner de l'argent, mais c'était d'augmenter notre surface pour participer à l'inclusion par le numérique.
Et donc une inclusion par le numérique, par quel biais ? Alors il y a code dans le nom, mais je crois qu'il n'y a pas que ça.
Voilà, c'est ça. Alors l'inclusion par le numérique, elle n'est pas sur les usages. À la compagnie, on essaye de montrer l'intérieur du numérique. Et c'est pour ça que les ateliers que nous animons sont plutôt des ateliers pour faire découvrir la programmation informatique, le code, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes.
Donc au tout début, vous étiez donc à la Mêlée Numérique, qui est une association plutôt d'entreprise, hein, d'ailleurs, sur Toulouse. Pourquoi avoir commencé là-bas ? C'était le lieu idéal, la pouponnière ?
Voilà, c'était un partenariat assez fort avec la mêlée.
Vous étiez rue d'Aubuisson, c'est ça ?
Voilà, à la Nova Mêlée ou à la cantine du Quai des Savoirs. Disons que la mêlée est quand même un terrain d'expérimentation, souvent, et il existait une commission, il y a plusieurs commissions à la mêlée, dont la Coding Commission, qui avait commencé à faire ses premières actions, et notamment des coding goûters.
Donc on va rappeler un petit peu le principe des coding goûters en SWAT. Je sais, on a fait une émission complète là-dessus, mais c'est pas trop tard pour le faire, pas parce que c'est vraiment votre signature. Et cela n'a pas forcément à voir avec une bonne sœur qui apprenait à faire du basique dans les années 60. Quoique...
Non, mais l'idée du coding goûter, c'est de découvrir la programmation créative. Donc ça s'adresse aux enfants dès qu'ils savent lire et écrire. Puisqu'en général, quand ils savent lire et écrire, ils savent manipuler la souris. Donc pour eux, c'est on utilise un environnement de développement. Là, je la joue informatique, mais qui est plus un outil ludique qui s'appelle Scratch. Et pendant un coding goûter, les enfants qui n'ont jamais produit la moindre ligne de code, on les amène en capacité à écrire leur premier jeu vidéo. Alors, en moins de 2 heures, ils découvrent les bases de la programmation, les différents concepts, et ils développent leur propre jeu vidéo, un petit labyrinthe avec un petit bonhomme qui se balade et qu'on peut déplacer avec des flèches.
Et ils sont associés avec leurs parents.
Et alors, les coding goûters sont effectivement un format un peu particulier où les enfants viennent avec leurs parents. L'idée, c'est aussi de parler aux parents, que les parents comprennent ce que les enfants font derrière l'ordinateur. Et souvent, ils sont aussi intéressés que les enfants. Et du coup, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à faire aussi ce qu'on appelle des coding cocktails, où des adultes ont envie de comprendre ce que c'est que la programmation, ce que c'est que le métier de programmeur, parfois dans le cadre d'une reconversion ou avant de choisir une formation. Et donc, pareil, on leur fait des ateliers similaires et ils apprennent à faire un jeu vidéo, pareil, en 2 heures. Pas, ils vont pas plus vite que les enfants, d'ailleurs.
ça me rappelle le Marshmallow Contest, d'ailleurs, de ce côté-là. C'est une session d'à peu près combien de participants ?
Alors, les coding goûtés, il y a entre 10 et 20 familles. Mmh. Donc, je sais pas, les plus gros coding goûtés, on a peut-être eu 40-45 personnes. Moitié-moitié.
Et combien de coding goûtés organisés jusqu'ici ?
Alors, les coding goûtés, il y en a au moins un par mois. Il y a un certain nombre de financements qu'a obtenu la compagnie du Côte pour venir en faire à l'extérieur de Toulouse. Toujours pareil, c'est pour essayer d'adresser des publics plus éloignés.
De désenclaver. Ouais.
Voilà. Mmh. Et du coup, on est susceptible d'en faire dans toute l'Occitanie. Il y en a un à Montpellier qui est prévu dans 15 jours. Il y en a eu plusieurs en Ariège, en Haute-Garonne. Il y en a à peu près... Ce sont des ateliers ouverts à tout le monde, totalement gratuits. Il y en a deux ou trois par mois.
Et ça fait à peu près combien de personnes que vous avez formées ?
Il faudrait faire des multiplications, quoi. En 5 ans, il y a quelques centaines d'enfants qui ont fait leur premier jeu vidéo. Après, il y a des ateliers plus réguliers pendant les stages de vacances, des ateliers hebdo, où là, les enfants peuvent aller un petit peu plus loin, notamment jusqu'à faire un petit peu d'électronique et de robotique, pour ceux qui connaissent, à base d'Arduino, de Raspberry, etc.
Pourquoi avoir quitté finalement la mêlée numérique, la cantine de Toulouse ?
Alors on les a pas vraiment quittés, mais disons que c'était en termes de logistique, c'était assez compliqué, quoi, de faire des ateliers, un coup au Quai des Savoirs, un coup à Caser, un coup au Fab Lab, un coup et du coup la nécessité d'un lieu, d'un camp de base, s'est fait sentir. D'abord pour pouvoir recevoir, j'allais dire, aux horaires et aux jours qui nous conviennent, de manière régulière, les enfants, sur des stages, sur des cursus un peu plus longs. Donc voilà, quoi, là, on n'est pas parti de la mêlée, juste le nombre d'interventions ayant sérieusement augmenté. Quand on fait un atelier par mois, c'est pas la même chose que quand on en fait 5 à 8 par semaine, quoi. Mmh. Donc voilà, il fallait un lieu qui est devenu ce lieu-là qu'on a trouvé donc il y a 3 ans, la fameuse place du Code.
Et du coup, quels sont ces avantages ? Alors, je ne suis pas Stéphane Plaza, mais bon, vous avez un magasin qui est au niveau du trottoir, qui a 3 grandes vitrines sur la rue. Ça doit faire, je sais pas, 10 mètres de long à peu près d'exposition. Il doit bien faire dans les 150 mètres carrés, je suppose.
Ouais, c'est ça. On a trouvé ce lieu-là, qui est un lieu pas tout jeune, hein, mais vraiment très très bien placé, avec ces fameuses vitrines qui nous permettent de montrer, d'avoir depuis la rue une vision de ce que l'on fait réellement. On était très très bien référencés sur les réseaux sociaux, sur Internet. Par contre, dans la vraie vie, personne ne savait ce qu'on faisait. Donc là, c'est l'occasion de montrer, d'ouvrir à l'extérieur, de communiquer également auprès du grand public, des passants qui viennent devant et qui se demandent ce que font les enfants derrière leur PC.
Avec des projections interactives et tout ça. Et en plus, à côté d'une école primaire dans une rue passante, c'est à 10 minutes à pied de la place du Capitole. C'était le bonheur.
C'était vraiment l'endroit idéal, bien placé, bien desservi par les transports en commun, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de personnes qui passent toutes les semaines, quoi, différentes, à un moment ou à un autre, que ce soit des adultes ou des enfants.
Vous avez élargi un peu la mission du coup de la compagnie du Code grâce à ce lieu justement.
Alors largement, puisque parmi les actions. Après les coding goûtés, il y a des actions dans les cités éducatives, dans les quartiers prioritaires, dans le cadre de projets sur l'égalité des chances. Il y a des actions grâce à la région, ce qu'on appelle les actions infométiers pour les jeunes et pour les demandeurs d'emploi, pour qu'ils se confrontent à ou qu'ils découvrent ce que sont les métiers de l'informatique. Des actions pour l'égalité filles-garçons, notamment avec le projet des intrépides de la tech, la formation des éducateurs, puisqu'à partir du moment où on a mis au point nos méthodes pédagogiques, on est en capacité de les transmettre et on forme des enseignants via le plan académique de formation, par exemple. Enfin voilà, il y a effectivement plein d'autres projets, y compris des projets en partenariat d'ailleurs sur l'insertion professionnelle avec le Hub Occitan, le Hub Rhinoc.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons François de Rochebrune sur la Compagnie du Code et la situation immobilière un petit peu compliquée qu'ils vivent actuellement. Alors, arrive une première catastrophe, et là on l'a tous vécu en même temps, en mars 2020, avec le confinement à cause du Covid. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben là, mauvaise nouvelle, quoi. La veille des vacances scolaires, on apprend que les enfants ne vont pas pouvoir se rendre à leur stage de vacances, et que les animateurs, d'ailleurs, eux aussi, doivent rester chez eux. Donc, première difficulté importante, quoi, puisque les stages de vacances représentent une bonne partie de l'activité de la compagnie, avec ces fameux stages, matin et soir. Et donc, voilà, on apprend qu'on va pas pouvoir faire nos stages en mars 2020.
Et du coup, vous aviez combien de salariés à ce moment-là, au moment du début du confinement ?
Alors, à cette époque, je pense qu'il y avait trois permanents. Il y avait beaucoup de projets en cours. Et quand je dis qu'on n'a pas pu faire nos stages de vacances, tous les autres lieux qui étaient des espaces publics, qui nous recevaient pour des ateliers à l'extérieur de la place du Code, bah, eux aussi se sont retrouvés en fermeture. Et du coup, annulation en cascade, Quai des Savoirs et autres lieux dans lesquels on aurait dû intervenir à ce moment-là.
Bref, comme tout le monde, vous avez vécu un petit peu difficilement l'année 2020. Vous avez été un petit peu soutenu quand même par l'État, par les collectivités publiques.
Oui, alors l'État nous a fait un prêt, un PGE. Il n'était pas très important parce que pour des questions de règles de calcul, quoi. Quand on compare par rapport à l'année d'avant, c'était vraiment le début 2018-2019. C'était le début de l'activité, quoi, de la compagnie. Donc les comparatifs n'étaient pas en notre faveur, et du coup le prêt n'a pas été très important. Ceci dit, il nous a quand même bien servi.
Heureusement, en 2021, ça commence à se relâcher un peu. Ça revient assez vite. Vous avez assez vite de nouvelles activités, du monde qui revient.
Ouais, l'année 2021 a vraiment été bien, bien pour nous, avec une progression importante du nombre de projets. Puisque voilà quoi, des projets avec Rhinoc, des projets avec le conseil régional, dans les quartiers prioritaires, là on a senti que ça repartait. Alors c'était peut-être effectivement tout le monde sortait d'un Covid, j'allais dire grave, quoi, et la relance était là. Donc oui, l'année 2020 a été très très bonne pour nous. D'ailleurs, le nombre de projets nous a obligés, on avait envie de le faire aussi, nous a obligés à recruter. Du coup, l'équipe est passée de 4 à 8 permanents. Et aujourd'hui, à l'heure de l'émission, donc il y a 8 équivalents temps plein qui travaillent à la Compagnie du Code.
Ça fait une belle petite PME, là, mais dites-moi. Arrive le coup de massue, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
Voilà, c'est ça. C'est vrai que pendant l'année 2020, ces difficultés se sont traduites par des pertes. Hein. L'exercice 2020 a été déficitaire, et avec des dettes auprès d'un certain nombre de fournisseurs, dont principalement notre bailleur, où effectivement il y a eu 4 loyers qu'on n'a pas pu payer. Et alors que en 2021, la situation s'est retrouvée complètement positive, voire même largement bénéficiaire, et les loyers ont repris, ont continué à être payés, mais il restait cette fameuse dette de 2020, et le temps que ça. Alors, bon, c'est le propriétaire a intenté une action en justice, donc ça prend du temps. C'est vrai que le différend datait de 2020, mais c'est aujourd'hui, début 2022 uniquement, qu'un jugement a été rendu. Donc, on se prend le retour de manivelle, finalement, un an et demi, alors que ça fait un an et demi que la situation a été rétablie.
Donc là, il y a eu un premier jugement. Vous faites appel, du coup, pour l'instant, vous essayez de voir ce qui peut être fait, ou il y a vraiment une volonté ferme de la part du propriétaire.
Bon, là, on est face à un juge et face effectivement à un propriétaire, hein, qui a porté plainte sur ses loyers impayés. Non, là, je ne sais pas si on va, si on va faire appel de cette décision. Pour le moment, on accuse le coup. On est sous le couvert d'une expulsion qui peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, on essaye de parler à tous nos partenaires, d'abord pour les rassurer, parce qu'on est en capacité, hein, si on doit payer cette dette, on arrivera à la payer, il n'y a pas de souci, on s'est bien remis d'aplomb. Aujourd'hui, on cherche plutôt une aide, parce que de toute façon, tôt ou tard, il va falloir quitter ce lieu. Donc,
les relations ne sont plus sereines avec le propriétaire.
Non, et puis c'est l'occasion... il avait quelques défauts quand même aussi, ce lieu. ne serait-ce que du côté énergétique, on va dire. Donc aujourd'hui, on est... Je ne sais pas. On a reçu un fort soutien, aussi bien de nos partenaires privés que de nos partenaires, que des partenaires institutionnels, que ce soit la région, la métropole et la préfecture. Aujourd'hui, on est plutôt à chercher une aide, peut-être pour constituer un fonds d'urgence qui servira soit à payer cette dette, soit à investir dans un nouveau lieu. On cherche plutôt à réunir des soutiens individuels, et puis après, plus généralement, pour trouver un autre lieu, parce que tôt ou tard, de toute façon, on quittera cet endroit.
Qu'est-ce que cela implique pour la compagnie du Code de devoir déménager ? Ça veut dire déjà trouver le bon lieu, c'est aussi mobiliser des fonds.
Oui, voilà, c'est principalement une charge supplémentaire à un moment où le nombre de projets est super important, quoi. On doit intervenir dans toute l'Occitanie. Il y a plein de partenariats qui ont été signés. Il va y avoir plus de 10 interventions par semaine à droite à gauche. Donc voilà, c'était pas le moment. Il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le quotidien. Se rajouter un déménagement, c'est un peu compliqué. Et puis, tu l'as dit, il faut trouver un lieu. Les contraintes sont assez importantes dans la mesure où il y a beaucoup de propositions qui nous sont faites tout autour de Toulouse. Mais là, c'est le lieu, c'est le camp de base de la compagnie qu'on cherche. Et celui-là, il doit être placé dans le centre-ville. Et de préférence avec une certaine autonomie. C'est-à-dire, c'est difficile de s'intégrer dans des espaces de coworking où finalement on n'est pas chez nous. Il y a du matériel à stocker, il y a
des gosses à gérer,
il y a un laboratoire d'expérimentation, des gens qui viennent faire des apéro-robots, des choses comme ça. Donc voilà, il nous faut un lieu où on puisse être indépendant et autonome, et dans le centre-ville, et pas trop cher, quoi.
Oui, ça, c'est la plus grande difficulté. Et d'ailleurs, ça fait un peu beaucoup quand même, parce qu'il y a eu la fin de l'espace Artilec, cet espace absolument immense, donc du Fab Lab, où on pouvait même organiser un festival là-bas. Maintenant, ça a été repris par un promoteur. La fermeture et l'expulsion à venir de Mixar Miris pour une opération de promotion immobilière à l'échelle d'un quartier. Le départ à venir des ateliers IPNTA pour une autre opération immobilière, puisque c'est le quartier Tézéo. Il n'y a pas comme une malédiction contre les tiers-lieux créatifs à Toulouse ?
J'espère que non. Mais comment dire ? Je ne sais pas.
Ça doit être un peu chaud. Au moment où nous enregistrons, où en est la situation pour vous ?
On attend les huissiers. Ils ne sont toujours pas passés. Et on commence à activer les plans B, les plans C, à faire une recherche. Donc, votre soutien de tout le monde est utile et nécessaire. Il y aura probablement une cagnotte qui va être ouverte pour au moins essayer de gérer les aspects financiers. Donc voilà, il y a une adresse mail, il y a tous les contacts sur le site. Si vous connaissez un endroit d'environ 150 mètres carrés pour un loyer modéré, de préférence au rez-de-chaussée et donc en centre-ville, on est le projet est de déménager, de louer ou d'acquérir, puisqu'en parallèle, il y a des dossiers de partenariat où on devrait être accompagné par un certain nombre de personnes qui ont envie de pérenniser les activités de la compagnie. Et c'est vrai qu'une acquisition pourrait véritablement inscrire nos actions dans la durée.
Du coup, les vacances scolaires commencent la semaine prochaine. Les coding goûters continuent, mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vous avez un plan B ou vous annulez directement les dates en question.
Alors, non, il n'y a aucune annulation, aucun changement, tous les plannings sont conservés. Là, on parle d'un départ dans quelques semaines, voire quelques mois, peu de mois, mais il est très probable que d'ici jusqu'à l'été, on sera toujours en place. Et puis les partenaires nous l'ont confirmé, nous ont proposé des lieux alternatifs si vraiment on en avait besoin en cas d'urgence, et on les remercie. Pour le moment, aucun changement ni sur les programmes ni sur les emplacements.
Donc actuellement, pour vous aider, déjà, c'est s'inscrire à votre newsletter, la compagnie sur le site lacompagnieducode.com.
Oui.
Oui, je te laisse en parler, oui, justement, tu le feras toujours mieux que moi.
Non, c'est ça, c'est la newsletter, si vous voulez être tenu au courant, il y a le fil Twitter, bon, un petit mail à contact@lacompagnieducode.org, ça nous fera toujours plaisir, voilà, quoi, on ne lâche rien, on est motivé, c'est l'occasion de passer à une nouvelle étape, qui sera encore plus intéressante que la précédente.
Et je renvoie bien évidemment les auditeurs et audilecteurs sur la page web de l'émission cpu.pm/185 pour primo les liens vers votre site, mais aussi sur toutes les émissions qu'on a enregistrées avec vous, et notamment celles où on a parlé des coding goûter, de Scratch et tout ça, et où on s'était bien amusé. Et j'ai eu des témoignages de parents qui ont dit que c'était bien éclaté justement avec leur progéniture lors des coding goûter, donc autant en profiter tant que ça existe, ce serait dommage sinon. François de Rochebrune, merci beaucoup.
Merci à toi, Dastrid.